Et frères et sœurs, ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur et dans l'équipe de vous partager la grâce peut-être qui est essentielle à donner dans le monde aujourd'hui. Cette grâce, c'est la grâce de l'espérance. Frères et sœurs, cette espérance, Paul nous dit que c'est une espérance qui ne trompe pas. Mais quelle est cette espérance? Quelle est cette espérance? Et j'aimerais partager dessus avec vous ce matin. Et j'aimerais d'abord lire un psaume, une partie d'un psaume, c'est le psaume 130. Ce psaume dit, de David, « J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. » Je vous conseille un livre ce matin, le livre du cardinal Lustiger, « La promesse ». Si vous ne l'avez pas lu, je vous en supplie, lisez-le. « Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. » Israël, mets ton espérance en l'Éternel. Et pourquoi cette espérance est essentielle? Parce que, frères et sœurs, comme le dit l'Épître aux Romains, la nuit est avancée et le jour approche. Frères et sœurs, dans quel état est le monde aujourd'hui? Le monde est désespéré. Vous avez déjà parlé avec des jeunes? Moi, j'ai été prof pendant 30 ans. Et combien de jeunes me disaient, mais il n'y a pas d'espérance dans ce monde. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie dans ce monde? Quel est le sens de ma vie dans ce monde? Dans ce monde que vous nous laissez, vous les adultes, mais qu'est-ce que je vais y faire? La guerre, le sida, les maladies, les couples qui se déchirent, les familles décomposées, mais qu'est-ce que je vais faire dans ce monde? Est-ce qu'il y a de l'espérance pour moi? Pourquoi je suis venu au monde? Je l'ai souvent entendu quand on parlait d'orientation. Vous comprenez? Et puis, vous savez, l'actualité, il y a des moments où j'ai plus envie de la regarder. Pourquoi? Mais c'est désespérant. Ce monde meurt de désespoir et de désespérance. Et nous, nous sommes la communauté de l'espérance pour le monde, dans le monde. Notre espérance, comme le dit Paul, c'est Jésus-Christ lui-même. Et la grâce de l'espérance, c'est la grâce essentielle à partager aujourd'hui dans le monde, à vivre dans le monde, à donner dans le monde, à condition que nous en soyons aussi porteurs et que nous l'incarnions. Paul a dit, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Vous êtes d'accord? La plus grande des trois, c'est l'amour, mais il y a l'espérance. Alors, il y a 3-4 ans, avant une convention, on avait reçu une image d'un magnifique bateau, mais ce bateau était en cale sèche. Et ce bateau, il était entouré d'ingénieurs, des ingénieurs spécialistes donc de la navigation des bateaux, et ce bateau, il observait sur toutes les coutures, ils avaient même commencé à le démonter pour voir vraiment de quoi il était fait. Ils disaient, mais ce bateau, il est magnifique, mais il lui manque quelque chose. Il n'est pas équipé pour affronter les tempêtes qui viennent. Il n'est pas équipé pour affronter le gros temps qui vient. Il n'est pas équipé pour avancer la nuit qui vient. Vous savez qu'une nuit vient toujours avant l'aurore. Mais avant l'aurore, il y a quand même la nuit. Et il regardait, il disait, ah oui, il lui manque une quille. Et alors, quand on a reçu ça, je me suis interrogé, mais Seigneur, ça signifie quoi cette quille? Et on a reçu cette quille qui vous empêchera de chavirer, cette quille qui vous gardera stable dans tous les gros temps, c'est l'espérance. Et je ne sais pas si on passera les images, mais voilà, tout de suite, vous savez, quand on reçoit une image et qu'on la saisit par la foi en disant qu'elle était discernée, qu'elle vient du Seigneur, moi j'aime bien la creuser. Je ne sais pas si vous faites ça, quand vous recevez une parole ou une image qui a été discernée comme venant du Seigneur. Vous savez, moi, la plupart des images que je vous partage, je les reçois, je vous l'ai dit, jamais seul ou très rarement seul, mais toujours en communauté, pour qu'elles soient discernées. Et donc, tout de suite, je suis allé voir et j'ai trouvé ces images-là. Ce sont les derniers bateaux qui sont équipés, vous savez, pour le Vendée Globe, pour ces grandes compétitions, où souvent, on est seul sur le bateau. Mais aussi, on est parfois en équipage. Et la dernière chose, enfin c'est dernier, ça veut dire quelques années, mais vous voyez ce bateau, il est exceptionnel, il fait partie d'une classe qu'on appelle les IMOCA. Je ne sais pas si vous connaissez ceux qui sont spécifiques de la voile. Les IMOCA, ce sont des bateaux étonnants. Si vous remarquez bien, ils ont une quille très très grande, vous la voyez ? Et cette quille, elle est pendulaire, c'est-à-dire que cette quille, elle est capable de bouger et de contrebalancer le roulis et le tangage, ce qui fait que le bateau ne chavire jamais, même à très grande vitesse. Mais en plus, vous voyez qu'ils ont des ailerons stabilisateurs très grands, d'accord ? Qui permettent, même lorsque le bateau est vraiment penché, de garder le cap dans la bonne direction. Et surtout, ils ont sur le côté des espèces d'ailerons qu'on appelle des hydrofoils. Et lorsque la vitesse augmente, le bateau s'élève au-dessus des eaux. Et il avance à une vitesse jusqu'à 40 nœuds, 45 nœuds, 50 nœuds. Ça équivaut à 110, 120, 130 km/h sur l'eau. Parce que l'eau ne le freine plus, parce qu'il marche sur l'eau. Ça vous dit quelque chose ? Et le Seigneur me disait, Étienne, la quille, elle vous stabilise pour que vous puissiez marcher sur l'eau, sur les ailes de la foi. Et c'est ainsi que le Seigneur veut que nous soyons équipés. Mes frères et sœurs, c'est ça l'Église dans la tempête du monde. Et ceux qui s'embarquent avec elle, ils surfent sur le mal. Parce que vous savez que la mer, dans la tradition juive, c'est le symbole du mal. C'est de là que sortent les bêtes de l'Apocalypse, vous vous souvenez ? Et on surfe, on marche sur l'eau. Stabilisé par l'espérance qui ne trompe pas, porté par les ailes de la foi et guidé par l'amour que Dieu nous déverse en nos cœurs. Amen. Est-ce que nous sommes vraiment ce bateau ? Je le crois que Dieu nous le donne. Alors, frères et sœurs, pour aller un peu plus loin, j'aimerais travailler avec vous justement sur ce thème de l'espérance. Quelle est cette espérance qui ne trompe pas ? Comment nous est-elle donnée ? Que nous permet-elle d'affronter ? Et comment veiller sur elle ? Parce qu'il nous faut veiller sur notre espérance. Alors, cette espérance, elle est double. Et je me rends compte que dans énormément de nos églises, vous savez, j'ai assisté déjà à beaucoup d'obsèques chrétiennes. Et les obsèques chrétiennes sont des moments lorsque notamment celui ou celle qui est monté vers le Père était quelqu'un qui connaissait vraiment déjà le Seigneur, sont plutôt des temps d'action de grâce que des temps de tristesse. Même si, bien sûr, il y a de la peine. Il y a de la peine. Moi, je me souviens aux obsèques de Carlos, il y avait de la peine, mais il y avait aussi une immense reconnaissance, une immense action de grâce. Pour Guy Lepoutre, c'est pareil. Oui, vous comprenez ça. Et j'aime beaucoup lorsque dans ces célébrations, quelle que soit la forme liturgique, il y a aussi une action de grâce qui monte vers Dieu pour la personne qui nous a été donnée et qui est remontée vers le Père. Et bien souvent, notre espérance, je dirais, écoutez bien, elle se limite à cela et ce n'est pas injuste. C'est une espérance pour notre salut personnel. J'ai bien vécu, j'ai été fidèle au Seigneur, je vais être caricatural, donc j'aurai une place au paradis. Alors je vais être quand même plus biblique, j'ai bien vécu, je sais que je vais mourir vivant et que je pourrai passer mon éternité à louer le Seigneur dans la gloire et à vivre avec lui pour toujours. Amen. Et frères et sœurs, cette espérance-là, elle est vraie. Elle est authentique, c'est une espérance personnelle. Mais cette espérance, elle est double. Il y a une autre espérance. Il y a une espérance cosmique. Le monde a besoin d'être sauvé et consolé. Et frères et sœurs, l'espérance juive, c'est pas d'abord l'espérance du salut personnel, c'est d'abord l'espérance des grands prophètes bibliques qui disent que la figure de ce monde passera et que Dieu viendra consoler tous les cœurs et vaincre la mort. Alors c'est cela que je voudrais creuser avec vous. Vous le voulez bien ? Alors, tout d'abord, cette espérance, Jérémie nous dit, alors je vais insister, il est temps que nous ressaisissions que les prophètes bibliques de la première alliance sont vraiment les prophètes de la première alliance et sont aussi les prophètes de la nouvelle alliance et sont aussi les prophètes qui disent la volonté, les temps et le destin du monde par la parole de Dieu. Il est temps que nous replacions notre foi d'abord dans les prophéties bibliques avant de rechercher les petites prophéties dans nos groupes qui nous dirigent. Vous y êtes ? Ne soyons pas obèses pour nous, donnons l'espérance au monde. Et moi, cette espérance, je la puise d'abord dans la parole de Dieu, dans Jérémie, dans Ésaïe, dans Ézéchiel, dans Daniel, dans Amos, dans Habacuc, dans Michée, dans tous ces prophètes que Jésus connaissait et qu'il citait. Parce que ce sont les prophètes de Dieu, pour le monde. Vous le croyez ? Amen. Alors, frères et sœurs, que nous dit Jérémie ? Car Dieu dit, je connais les projets que j'ai formulés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Et Jérémie prophétise ça, vous savez, au moment où le peuple va partir en exil. Et cette parole, je peux la reprendre pour moi, parce que vous savez, la parole prophétique, elle est souvent donnée à un moment précis de l'histoire, mais elle rebondit dans le temps. Parce que la parole de Dieu, elle est éternelle et elle est féconde pour toujours. Et on peut la ressaisir par la foi pour nous. Alors cette parole, on la cite souvent pour nous et on a raison. Mais elle a été donnée dans un contexte précis pour dire que malgré tout ce qui vous arrive, vous restez le peuple de l'espérance. Il y a un avenir pour vous et pour le monde parce que je suis le Dieu maître de l'histoire. Avez-vous foi en Dieu maître de l'histoire ? Alors, frères et sœurs, c'est ce dont le monde a besoin. C'est que l'histoire humaine a un sens. Et que c'est Dieu qui est en contrôle. Que c'est Dieu qui la contrôle. Et malgré les apparences, le mal n'aura jamais le dernier mot. Amen ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une double espérance qui est révélée par la Bible et qui est fondée sur le fait que Dieu, il est fidèle. Dieu est fidèle. Sa parole est solide et sûre. Je peux m'enraciner sur lui parce qu'il est fidèle. Et toute l'histoire d'Israël me le montre et toute l'histoire de l'Église me le montre. Malgré toutes nos erreurs, malgré parfois nos turpitudes, malgré nos déviances, Dieu demeure fidèle. Et Dieu est fidèle pour le salut personnel de chacun. Et Dieu est fidèle pour le salut du monde. Comme on le dit à la messe, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Vivez la liturgie, hein, vous les catholiques, vivez-la bien. Hein. Petite anecdote, vous savez, quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, le premier cadeau que Dieu m'a fait, c'est pas parler en langue. On m'a imposé les mains pour le baptême du Saint-Esprit juste après mon baptême par immersion, parce que je n'avais pas été baptisé enfant. Et je suis revenu au Seigneur et j'ai été baptisé. Et dans mon église, on pratique le fait que, ben, après le baptême d'eau, il y a le baptême d'esprit, le baptême de feu, pour ceux qui n'ont jamais été baptisés. Et j'ai dit oui. La première chose, j'ai été baptisé du dimanche. Le dimanche suivant, je vais bien sûr à l'église. Premier cadeau de Dieu, je vis la liturgie. Elle me parle. Ce n'est pas un rite, je la vis. Et depuis, je la vis. La liturgie, c'est le chemin commun, communautaire, pour aller ensemble vers le trône de Dieu. Et je la vis, elle me parle. Amen. Alors, frères et sœurs, voilà ce que nous dit Dieu dans 1 Timothée. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Que pas un seul n'en réchappe, mais que pas un seul n'échappe à la bénédiction. Pas un seul, même le pire des larrons, peut entrer dans le paradis s'il se repent. Dieu a tout fait pour que le salut touche les cœurs. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ouh ! Frères et sœurs, quelle espérance ! Fondée sur la vérité de ce que Jésus a accompli. Et puis, on a encore un tas de textes qu'on pourrait citer sur le salut personnel. Dans Actes, Dieu rajoutait lui-même tous les jours à la communauté celui et ceux qui étaient sauvés. C'est Dieu qui le fait, à partir d'une communauté qui demeure dans l'espérance. Parce que si Dieu amène des gens et que vous n'avez rien à témoigner, ils ne vont pas forcément rester. J'ouvre une autre parenthèse. J'ai été vraiment enthousiasmé par le fait que cette année, il y a eu des milliers de baptêmes le jour de Pâques dans l'Église catholique. Moi, je m'en suis vraiment réjoui, frères et sœurs. Je vous le dis vraiment du fond du cœur, je m'en suis réjoui. Il y a la même chose dans les églises évangéliques, mais ça, c'est moins... actuellement, c'est national, surtout parmi les jeunes. Et j'ai entendu cet évêque dire, on lui posait la question, alors c'est un réveil, il a dit, il faut être prudent, c'est un éveil qui nous lance un défi pastoral. Il faut que ces jeunes restent. Si tu n'as rien à témoigner, ils ne resteront pas. Et qu'est-ce qui va leur donner de rester? C'est le partage de notre espérance, vivifiée par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il nous faut apporter le baptême du Saint-Esprit à toutes les paroisses. Amen. Donc une expérience personnelle. Et ça, je pense que, frères et sœurs, vous êtes tous au point là-dessus. Vous êtes d'accord qu'on est déjà en train de préparer la communion qui durera pour toujours dans l'éternité. Et que si on apprend à se supporter les uns les autres, c'est parce qu'on va passer un bon bout de temps ensemble. Merci Seigneur pour l'amour et pour la grâce du pardon et de la réconciliation. Mes frères et sœurs, cette espérance-là, vraiment l'Église doit la partager. Et le but de l'Évangile, c'est de dire à chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque adolescent, il y a de l'espérance, il y a un projet d'avenir pour toi. Moi, quand je suis revenu au Seigneur, la première parole qu'il m'a dit, moi j'étais un fils prodigue qui a quitté l'Église et le Seigneur pendant quelques années. Quand je suis revenu comme un fils prodigue repentant, le Seigneur m'a dit, Étienne, il y a de l'espérance pour ton avenir et ton espérance ne sera jamais anéantie. Et c'est ça qui m'a remis debout, frères et sœurs. J'ai pris mes études à partir de là pour devenir prof. C'est ça qui m'a remis debout. Ton espérance ne sera jamais anéantie. Amen. C'est ça qu'il faut partager. Mon frère, ma sœur, il y a de l'espérance pour ton avenir et ton espérance ne sera jamais anéantie parce qu'elle a été accomplie à la croix pour ton salut. Amen. Alléluia. Mais il y a aussi une espérance cosmique. Et il y a un texte que j'aime particulièrement. C'est le texte d'Ésaïe 25. Et voilà ce que prophétise Ésaïe de la part de Dieu. Sur cette montagne, on est sur une montagne ici, mais la montagne dont parle Ésaïe, c'est la montagne de Sion. Vous savez que Jésus revient à Sion. Parce que c'est le roi de Sion. La montagne de Sion, c'est la montagne de Jérusalem. Vous savez que Jérusalem, en hébreu, ça se dit Yerushalayim. C'est un pluriel. Parce qu'il y a deux Jérusalem. Il y a la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Et Jésus est le roi des deux. Il est mort dans la Jérusalem terrestre pour que vienne la Jérusalem céleste. Amen, frères et sœurs. Donc notre roi est le roi de Sion. Et c'est pour ça qu'un psaume dit, de Sion, on dira, tous les hommes y sont nés. Parce que moi, je suis né au Golgotha, au calvaire. Je suis né dans la Jérusalem terrestre pour la Jérusalem céleste. Amen. Frères et sœurs, voilà ce que dit Ésaïe de la part de l'Éternel. Sur cette montagne, l'Éternel, le maître de l'univers. Vous voyez bien que c'est une espérance cosmique. Vous savez, moi je suis prof de science. Le cosmos, c'est quoi? C'est la totalité de l'univers visible et invisible. Et ce cosmos, nous savons qu'au commencement, Dieu l'a créé. Et donc, Dieu désire le salut de toute la création qui attend, soupire après la manifestation des fils et des filles de Dieu, porteurs de l'espérance pour le salut de toute la création qui soupire, qui gémit. Sur cette montagne, dit l'Éternel, le maître de l'univers, l'Éternel prépare pour tous les peuples, quoi? Un festin de plats succulents. C'est les noces de l'agneau. Écoutez bien, un festin de bon vin. C'est le meilleur vin qui gardait pour la fin. C'est le vin des noces de Cana. Un festin de plats succulents, de bon vin, plein de moelle. Dans la moelle, à l'époque, ça voulait dire des viandes grasses, donc de la richesse, des plats magnifiques. De bon vin clarifié, des vins qui ont été gardés, les meilleurs pour la fin. Sur cette montagne, écoutez bien, il détruira le voile qui est étendu sur tous les peuples. La couverture qui est déployée sur toutes les nations, il engloutira la mort pour toujours. 600 ans avant la naissance de Jésus. Tout est déjà dit, frères et sœurs. N'allez pas chercher ailleurs. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. On dira en ce jour-là, voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré et qui nous sauve. C'est l'Éternel, c'est en lui que nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut, salut cosmique et universel. Est-ce que vous êtes porteur de ça pour le monde? Est-ce que c'est ça qui vous mène à intercéder? Est-ce que c'est ça qui vous mène à prier? Est-ce que c'est ça qui vous mène à témoigner? Satan, ton règne aura une fin, alors que le règne de Jésus n'aura pas de fin. La mort ne sera plus. Et l'apôtre Pierre, qui connaît bien sa Bible, nous dit, ce que nous attendons, c'est de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la paix et la justice régneront. À qui fait-il référence? À Isaïe. Et il cite cela après la victoire de Jésus sur la croix et sa résurrection. Et dans l'Apocalypse, qu'est-ce que l'on voit? On voit descendre, vous vous souvenez, cette Jérusalem céleste paraît comme une épouse. Vous êtes bien d'accord? Et c'est vraiment la fin des temps. Dans le sens que c'est vraiment là l'achèvement du projet de Dieu, c'est que dans cette Jérusalem céleste, où l'agneau sera la lumière, où il y aura ce fleuve qui coulera en permanence avec des arbres sur le pourtour du fleuve qui donneront des feuilles pour la guérison des nations, maintenant 24 heures sur 24, pour toujours, et non pas uniquement en sa saison, comme le disait le psaume 1. Frères et sœurs, est-ce que c'est notre espérance là? Amen, si c'est notre espérance. Alors, voyez, j'aimerais que nous repartions de cette session, certains que cette espérance personnelle et cosmique, elle nous est donnée, et que les vannes soient ouvertes pour qu'on la partage. Le monde a besoin de nous, frères et sœurs. Alors, comment cette espérance nous est-elle donnée, et comment pouvons-nous la recevoir? Alors, c'est assez simple. Cette espérance est une promesse qui nous a été acquise par les mérites, non pas les nôtres, mais les mérites de qui? Les mérites de Jésus. Vous savez, les Juifs disent, c'est les mérites du Messie qui nous vaudront le salut. C'est pour ça qu'ils l'attendent. Je ne suis pas sauvé par mes propres mérites, je suis sauvé par les mérites du Messie qui a tout accompli sur la croix pour que je sois sauvé. Il est mort à ma place, il a porté mes péchés. Et ce mérite-là m'a totalement sauvé. Alléluia, Seigneur Jésus, merci de m'avoir sauvé. Merci pour tout ce que tu as accompli. Et donc, cette promesse nous est acquise par les mérites du Messie, Messie d'Israël, roi d'Israël et des nations, et nous le recevons par la foi en son sacrifice unique et parfait. Quiconque confesse de sa bouche que Jésus est Seigneur, il est sauvé. Tu peux dire à ton voisin, ta voisine, tu confesses Jésus, tu es sauvé. Bienvenue à tous les sauvés. Bienvenue à tous les sauvés. Et Dieu désire que le nombre grandisse. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Bienvenue à tous les sauvés en Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, cette promesse, elle a été annoncée par Ésaïe, Ésaïe 53. Vous savez que quand vous lisez Ésaïe 53 à des personnes qui ne connaissent pas la Bible, c'est souvent surprenant comme résultat. Un jour, j'étais avec un ami, un aumônier de la faculté catholique de Lille. Il m'a dit, Étienne, j'ai deux étudiants musulmans avec qui je parle. Tu pourrais venir témoigner? Je dis, oui, c'est un prof de physique. Je viens, et puis on partage, et ils me disent, mais quelle est ta foi? Et je lis Ésaïe 53. Ils étaient bluffés. Ça correspond exactement à ce que Jésus a vécu. Le serviteur souffrant. Sur Internet, on a un frère qui est un juif messianique. Vous savez, les juifs messianiques, c'est aussi les prémices de ce que Dieu est en train de faire. Ce sont tous nos frères juifs qui ont déjà reconnu Jésus comme le Seigneur, comme leur Messie, mais qui restent juifs, évidemment, et qui vivent en Israël. Il y en a de plus en plus. C'est en train de se faire, frères et sœurs. Et c'est pour ça que les combats sont si difficiles, parce que c'est en train de se faire. Et donc, comme il est juif et citoyen d'Israël, il témoigne dans la rue. Et il parle et il se filme avec ceux avec qui il témoigne quand ils sont d'accord. Et quand il leur dit Isaïe 53, la plupart disent bah, mais c'est de Jésus qu'on parle là. Je dis oui, tu vois, c'est dans Isaïe. Et ils sont troublés. Dans le bon sens du terme. Vous comprenez? Tout a été dit. Tout a été dit. Et c'est une bénédiction de vivre cela. Tout a été dit et tout a été accompli. Amen. À chaque Eucharistie, on peut dire, Seigneur, tout est accompli. Vous savez que l'Eucharistie, c'est un lieu de combat spirituel? Vous en doutiez? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Chaque fois que vous communiez avec l'Église du ciel présente, avec le corps du Christ réuni, l'Église du ciel et l'Église de la terre, vous proclamez aux puissances démoniaques, aux puissances qui veulent asservir le monde, tout est accompli, vous êtes vaincu. L'Eucharistie est une table de combat spirituel. La Sainte Cène est une table de combat spirituel, parce qu'elle fait la mémoire devant les puissances des ténèbres de ce qui a été accompli au Golgotha. Frères et sœurs, quand vous communiez, vous combattez le malin pour le salut du monde. Il y a de plus en plus d'églises qui reviennent à la Sainte Cène tous les dimanches. Et ils ont raison. Cet héritage de la promesse, c'est par la foi que nous pouvons le recevoir. Et comme je vous l'ai déjà dit, Éphésiens nous dit que cet héritage de la promesse faite à Israël, par les prophètes d'Israël, par le Messie d'Israël, pour le salut du monde, nous le recevons parce que par la croix, nous avons été greffés sur Israël pour être co-héritiers des promesses. Donc mon frère et ma sœur, si tu n'es pas juif, si tu n'es pas juive, la promesse est aussi pour toi. Israël a été élu pour être une bénédiction pour le monde, et c'est ce qu'il a été, et malgré les apparences, c'est ce qu'il continue d'être par sa fidélité. Et c'est pour cela qu'il est combattu. Si on coupe la racine, les branches que nous sommes n'ont plus de sève. Regardez l'actualité avec les lunettes des prophètes bibliques, pas avec celles du monde, s'il vous plaît. Ça suffit. Revenons aux prophéties bibliques et à l'espérance qui est en Dieu. Et intercédons, frères et sœurs, prions. Et Paul nous dit que nous, vous les non-juifs, puisque Paul est l'apôtre des non-juifs, vous êtes greffés sur cette racine des prophètes bibliques, de l'espérance biblique donnée à Israël pour le salut du monde. Vous êtes greffé comment? Vous savez comment on fait une greffe? On fait une cicatrice en forme de croix. C'est la croix du Christ qui nous a valu d'être greffé sur la racine de la promesse de Dieu que porte Israël. Et cette sève nous nourrit. Et nous, qui sommes renouvelés dans le Saint-Esprit, nous sommes exposés au soleil de justice. Et cette sève qui monte de la racine, nous la transformons en fruit pour la gloire de Dieu. Et vous savez qu'un fruit, il est partagé. Amen. Frères et sœurs, et alors c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux nous dit, cette promesse, cette espérance, c'est une encre solide et sûre. Mais c'est étonnant, une encre, on la met où d'habitude? On la met derrière le bateau ou à côté pour le bloquer. Là où elle est l'espérance? Cette encre, elle est dans la Jérusalem céleste et elle nous tire, elle nous garde dans la bonne direction. Mon frère, ma sœur, l'espérance, c'est la force qui garde l'amour et la foi dans la bonne direction. Et comme le dit le poète que vous connaissez, Charles Péguy, l'espérance, c'est la petite sœur qui entraîne ses deux grandes sœurs, l'amour et la foi, par la main, parce qu'elle est toute joyeuse. Elle les fait rester dans la bonne direction. Parce que l'espérance nous permet de voir ce qui n'est pas encore. Amen. Mon frère, où est ton espérance? Dans le monde? Dans la Jérusalem terrestre ou dans la Jérusalem céleste? Wow! Jérusalem céleste. Jette ton ancre, mon frère, ma sœur. Jette ton ancre dans la Jérusalem céleste. Je veux choquer personne. Paul nous dit que la Jérusalem céleste, c'est notre mère, à tous et à toutes. Galates. Pourquoi? En elle, tous les hommes sont nés. ils sont sauvés.
Waouh ! Attire-moi, attire-moi, garde-moi dans la bonne direction.
Que mon amour, que ma charité, celle que tu m'as donnée, et que la foi que tu m'as donnée, garde toujours la direction de l'espérance du salut du monde et du salut de chacun et chacune en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, eh bien, tout est accompli. Dans l'église où a été fondée notre communauté, celle dont je fais partie, l'Union de prière, qui se trouve au village de Charmes-sur-Rhône, c'est pour ça que notre communauté s'est appelée au départ l'Union de prière de Charmes-sur-Rhône. Mais quand on dit l'Union de prière de Charmes, les gens voient plutôt le mot charme, vous voyez, ça fait un peu bizarre. Donc on dit Union de prière, comme ça, au moins, c'est beaucoup plus clair. Donc, il y a, c'est un temple protestant, Sevenol. Donc, vous voyez, c'est des tentes hyper sobres. Hein. Il n'y a rien du tout. Alors là, il n'y a rien, mais là, rien du tout. C'est blanc, il y a des bancs, c'est tout. Mais tout au fond, il y a la chaire du pasteur pour prêcher. Il y a écrit une seule chose sur le mur. Au commencement, Dieu. Trois points de suspension. Puis notre regard s'abaisse sur la croix qui est au-dessus de la chaire. Et trois autres points de suspension. Viens, Seigneur Jésus. Tout est dit, tout est accompli. Est-ce que notre espérance, c'est l'achèvement de toute chose par la venue en gloire de Jésus? Amen. Alléluia, alléluia. Que l'Église redécouvre cette espérance. Et un jour, le Seigneur m'a parlé au travers... Alors, nos frères juifs nous disent, si tu veux comprendre le plan de Dieu, il suffit que tu lises la vie des patriarches. Tu lis la Genèse, tout y est. Ils ont raison. Vous savez que Jésus, je vous l'ai dit, c'est le fils de David, c'est aussi le fils de Joseph. Vous êtes d'accord? C'est aussi le fils de Pérez. Et vous savez que Joseph, il a été vendu par ses frères aux païens. L'Égypte, c'était vraiment le royaume, à l'époque, le plus grand royaume païen. Il en est devenu le premier ministre, on pourrait dire. D'accord? Vous êtes d'accord? Presque le pharaon, quelque part. Et puis ses frères sont venus se réconcilier avec lui. On est bien d'accord. Et il a eu deux enfants, Joseph, Éphraïm et Manassé. Vous savez ce que veut dire Manassé? Dieu m'a fait oublier. Vous savez ce que veut dire Éphraïm? Doublement fécond. C'est un pluriel, double fécondité. Les deux enfants de Joseph, les deux enfants sont les deux promesses spirituelles que le Messie va accomplir en tant que fils de Joseph. Par Manassé, il va tout faire pour nous faire oublier notre passé et nos péchés. Et nous oublierons notre honte. Et par Éphraïm, il promet une double fécondité. La fécondité de la première venue et la fécondité de la seconde venue. Tout est accompli, tout sera achevé. Retenez ça, frères et sœurs. Tout est dans la parole de Dieu. Amen. Alors, frères et sœurs, que nous permet-elle de confronter cette espérance? L'espérance, on le dit dans notre communauté, c'est un combat. C'est un combat. C'est d'abord un combat contre l'antéchrist. Contre tout ce qui, dans le monde, s'oppose encore à Jésus-Christ et à sa pleine manifestation. Tout ce qui dans le monde s'oppose encore à la manifestation du salut déjà accompli en Jésus-Christ. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit d'Oscar Kuhlmann, ce théologien alsacien qui disait « Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, c'est comme le débarquement des Américains en Normandie. La victoire a changé de camp, mais il a fallu encore combien d'années ?» Débarquement, c'est en quelle année ? Capitulation, il a fallu encore un an de combat pour aller jusqu'à Berlin. Et là, c'est la capitulation, la fin de l'adversaire. Amen. Nous sommes dans ce temps-là, et donc il y a un combat de l'espérance. Et d'ailleurs, Jésus nous met en garde. Dans Matthieu 24, il nous dit « Que personne ne vous égare. Il viendra des faux messies. » Donc des gens qui vont vous donner une fausse espérance. C'est ça un faux messie, qui vous donne une fausse espérance. Faites attention à tous les messages parfois qui circulent. Un ange m'a dit, ceci m'a dit. Discernez, frères et sœurs, discernez. Et aussi, faites aussi confiance aussi à nos églises pour discerner. Vous voyez ce que je veux dire? Discernons, frères et sœurs. Si tel ou tel message, telle ou telle chose vient vraiment de Dieu.
Moi, mon critère de discernement, est-ce que ça va dans le sens des prophéties bibliques ou pas? Est-ce que ça va dans le sens du salut personnel de chacun pour amener des pécheurs à la repentance? Est-ce que ça va dans le sens de réveiller mon espérance pour le salut du monde, conformément à la parole de Dieu? Ça, c'est un bon critère. Amen. Et Jésus nous a dit que nous sommes dans des temps d'accouchement. Vous vous souvenez, excusez-moi si je reprends la comparaison qui peut vous paraître guerrière, entre le débarquement américain et la chute à Berlin, ça a été facile pour les soldats? Enfin, pas de commentaire, vous comprenez, c'est une image, vous comprenez bien ce que je veux dire. Hein. Vous vous souvenez de la bataille des Ardennes, où les Américains ont failli perdre, et tout aurait pu être renversé en un ou deux jours. L'adversaire a encore des ressources, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, il est descendu sur terre, parce que depuis que Jésus est monté au ciel, il a été jeté en bas. Où est-ce qu'il a été jeté? Sur terre. Jésus dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Il est sur terre, frères et sœurs. Il n'y a pas besoin d'attendre, c'est déjà l'enfer. Il n'y a pas besoin d'attendre, c'est déjà l'enfer. Mais les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Amen. Et du coup, le combat est là. Et comme il est descendu sur terre, la Bible nous dit, il est en colère parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Une bête blessée réagit vite. Il ne faut pas être naïf, frères et sœurs. Il ne faut pas être naïf. Amen. Il faut être équipé, assuré, par l'espérance qui nous stabilise, par la foi qui nous porte et par l'amour qui vaincra. Amen. Alors, frères et sœurs, dans ces douleurs de l'accouchement, Jésus nous dit, il y aura des tremblements de terre, il y aura des bruits de guerre, il y aura des famines. Mais ne vous inquiétez pas, ce ne sont que les douleurs de l'accouchement. Quand vous entendrez cela, relevez la tête parce que votre délivrance est proche. Si la nuit est avancée, c'est que l'aube approche. Amen. Et je pense que par rapport à Paul, et par rapport à l'époque des premiers apôtres, nous sommes plus près de l'aurore qu'eux. Vous êtes d'accord? Alors, alléluia! Et le combat de notre espérance, il est acquis à la certitude que l'adversaire est déjà vaincu, même s'il remue encore. Et c'est pour ça qu'il y a parmi nous ces ministères de délivrance. C'est pour ça qu'il y a parmi nous ces ministères d'exorcisme. C'est pour ça qu'il y a parmi nous ces ministères de guérison. Parce que tout ce qui nous lie est déjà vaincu à la croix. Et l'Église est le lieu où le monde est consolé de ses liens, de ses blessures. Jésus est venu libérer les captifs. Alléluia, développons ces dons dans l'Église, parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui vont venir dans l'Église, la plupart ont des blessures telles que seul un ministère de délivrance et de guérison pourra les apaiser au nom de Jésus. Pas la psychologie, ce n'est pas suffisant. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Alors, frères et sœurs, il y a un mot d'ordre. Le mot d'ordre de l'espérance, il est celui-ci. Ne vous conformez pas au monde présent. Ça ne veut pas dire « ayez une morale étriquée que vous imposez à vos enfants ». Soyez, ayez peur de faire un pas de côté, vraiment on ne se conforme pas. Non, non, même pas peur. Même pas peur. Même pas peur. Mais je me garderai de toute souillure, de toute idolâtrie. J'aimerai Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Et mon prochain, comme moi-même, le plus grand des commandements. Amen. C'était déjà dans le Deutéronome. Hein. Jésus n'a fait répéter que ce que Moïse avait dit. Et alors, le dernier encouragement de Paul, toujours dans l'Épître aux Éphésiens, « Mon frère, ma sœur, si tu gardes cette espérance, si tu la reçois dans ton cœur, si tu la vis, tu la partages, tu la gardes comme l'encre de ta vie pour te garder dans la bonne direction, alors tu rachètes le temps. » Tu rachètes le temps. Rachetez le temps, car les temps sont mauvais. Et rachetez le temps, comme le dit Pierre, par votre persévérance, vous pouvez hâter le retour du Messie. Nous avons une responsabilité. Alors, frères et sœurs, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, le petit plan? Quelle est cette espérance? Comment nous est-elle donnée? Comment la recevons-t-elle? Comment, finalement, à quoi elle nous confronte? Qu'est-ce qu'elle nous permet de confronter? Et la dernière chose importante, c'est comment veiller sur elle. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et là, j'aimerais vous partager une image que nous avons reçue à Gagnères et qui m'a énormément parlé. Je pense que dans le lieu où nous sommes, elle va vous parler. Nous étions réunis pendant le Covid. Pendant le Covid, il y avait pas mal de désespérance dans le monde. La désespérance, elle était aussi un peu dans l'Église parce que la convention de Gagnères, elle n'a pas pu avoir lieu. Parce que tout était interdit à l'époque, vous vous souvenez? Donc on s'est simplement réunis, l'équipe d'animation, on est une vingtaine, l'équipe de louanges, les orateurs et tous ceux qui organisent la session. On fait ça chaque année et là on l'a fait qu'entre nous, une vingtaine. On a été bénis parce qu'on n'était pas très nombreux, les règles d'hygiène étaient faciles à respecter, il n'y a pas eu de souci du tout entre nous. Il n'y avait personne dans le centre. Et puis un jour, en priant, le Seigneur nous a beaucoup nourris, on a reçu une image un peu étonnante. Alors ça va vous rappeler quelque chose, on voyait un drap qui descendait du ciel. Bon, mais il n'y avait pas d'animaux impurs dedans. Alors, l'image qu'on recevait, on y voyait, alors ça a paru bizarre, d'abord le nom, un œuf. Mais ce n'était pas un œuf de poule. C'était un œuf issu de la fécondation d'un ovule et d'un spermatozoïde. C'était les premiers stades d'un embryon humain. C'est le tout premier stade de la vie d'un homme et d'une femme. C'est juste après la fécondation. Un biologiste que je suis vous dira, on appelle ça un zygote, non pas un zygoto, hein, un zygote, même si parfois ça devient un zygoto plus tard. On appelle ça un zygote, c'est-à-dire un œuf. Et juste après la fécondation, l'œuf commence à se diviser pour donner les cellules qui vont donner l'embryon. Ça va très vite. Et donc, on comprenait que Dieu nous disait, je suis en train de faire descendre de la fécondité. Ça va ? Mais alors la parole suivante était étonnante. Je vous rappelle qu'on est un groupe écuménique. Hein. Comme Marie a été enceinte de ma première venue, voulez-vous être enceinte de ma seconde venue ? Et le geste qu'on a fait, c'est que, comme dans toute équipe, on a un duo de présidence, et l'un des deux présidents, qui était une femme, parce que nos duos sont mixtes, on essaye de... Toujours, hein, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Hein. Ce n'est pas le genre qui nous qualifie, c'est l'Esprit Saint qui nous qualifie. Amen. Et donc, c'est notre sœur, coprésidente, qui est venue et qui a donné à chacun l'embryon en le posant sur son ventre. Et alors, j'ai compris pourquoi Marie s'était réjouie. Et je me disais, j'ai relu alors son Magnificat. Wouhou, ça prenait un sens! Et surtout ce texte, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Frères et sœurs, pourquoi le renouveau charismatique a été donné à l'Église? C'est pour qu'elle soit enceinte de la seconde venue de Jésus. Parce qu'elle est l'épouse du Christ. Vous êtes d'accord? Waouh! Et donc Marie est un modèle. Et je dis cela à Notre-Dame du Lot. Alléluia! Et c'est un protestant qui vous le dit. Alléluia. Bon, je vais vous faire une confidence. J'aime Marie de tout mon cœur. C'est la mère de Jésus. C'est la Vierge d'Israël. C'est celle par qui s'accomplissent toutes les prophéties messianiques. C'est la couronne de Sion. Et c'est celle qui nous a donné Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que tout ce que nous pouvons dire d'elle entre protestants et catholiques, finalement, lui rend mal l'honneur, voyez? On est là pour honorer, hein. Toutes les générations te diront bienheureuse, ben, je la dis bienheureuse avec vous. Frères et sœurs, vous savez, il y a longtemps qu'on n'a plus de soucis normalement avec tout ça, même si nos accents sont un peu différents. Et j'aime le dire à mes frères évangéliques, franchement, les combats d'arrière-garde, ça suffit, quoi. Basta, quoi. Amen. Amen. Alléluia. On avance. Mes frères et sœurs, c'est pas une condition, mais c'est parce que nous avons reçu le même esprit et la même espérance. Amen. Alors, je continue. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Nous sommes les servantes et les serviteurs du Seigneur, qu'il en soit fait selon sa promesse et sa parole. Que l'Église soit féconde de la seconde venue pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. Alors, frères et sœurs, comment veiller sur notre espérance? Comment entretenir, comment veiller sur cette grossesse spirituelle que Dieu nous donne? Eh bien, j'ai trouvé une petite ordonnance, vous savez, comme un gynécologue qui donne une ordonnance à la femme qui est enceinte. 4 recommandations. Première recommandation, vous pouvez prendre des notes si vous voulez, hein. Ordonnance pour veiller sur l'espérance qui est en nous. Ordonnance pour veiller sur la grossesse que Dieu nous donne pour féconder le monde. Tout d'abord, unité, unification. Une seule épouse, un seul peuple, une seule église, une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Amen. On est frères et sœurs, on est le corps du Christ, et j'oserais dire, on est quelque part le même utérus qui porte le salut du monde par la venue en gloire de Jésus. Vous savez que miséricorde en hébreu, ça se dit entraille, utérus. Hein. La miséricorde de Dieu, c'est des entrailles de miséricorde, c'est des entrailles de mère. Nous portons ça dans nos entrailles. Elles nous sont communes. Unité. Cette espérance, elle n'est pas protestante, elle n'est pas catholique. Cette espérance, elle vient du Seigneur accompli par Jésus. Donc, alors, je vais faire un jeu de mots. Elle est catholique dans le sens d'universel. Mais elle n'est pas uniquement catholique romaine. Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord ? Le mot catholique, on peut aussi lui redonner son sens. C'est un mot qui veut dire universel. Amen. Unité. Je pense qu'on a reçu pas mal d'onction d'unité et aussi peut-être de restauration d'unité entre nous. C'est pour préparer cet utérus. Et unification. Seigneur, unifie mon cœur pour qu'il frémisse de ta présence. Psaume 86, verset 11. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et Paul nous dira, en Éphésiens 4, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Frères et sœurs, vous savez que si une femme, pendant la grossesse, subit des actes de colère et de violence, ça va traumatiser l'enfant qui est en elle. Et on le sait maintenant, il y a des guérisons intérieures qui vont jusque là. On a vu, après la guerre 40, beaucoup d'enfants qui sont nés dans les privations de la guerre, sont devenus souvent des obèses et des gens diabétiques avant l'âge. Parce que leur corps avait été transformé, maintenant on appelle ça l'épigénétique, c'est-à-dire qu'il y a une hérédité qui n'est pas que donnée par les parents. Nos gènes se modifient selon les circonstances de nos vies, on le sait maintenant. Et nos gènes sont présents dès le ventre de notre mère. Je ferme la parenthèse. Le lien de la paix. Amen. Unité, unification. Un comprimé tous les matins, un comprimé tous les soirs. Tout va bien. Ensuite, Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Pas d'autre Dieu que lui. Pas d'autre époux que lui. Vous savez comment se dit le mot époux aussi en hébreu ? Baal. Oui, parce que Baal, ça veut dire maître, époux. Et aussi, faux Dieu, parce que les cultes païens, c'était des cultes de fécondité, mais de la mauvaise fécondité. On est bien d'accord ? Donc Dieu dit, pas d'autre Baal que moi, pas d'autre époux que moi, pas d'autre Dieu que moi. Exclusivité, fidélité, une seule épouse, Jésus est monogame. Attention à l'idolâtrie. Attention aux addictions. Attention à tout ce qui te détourne de l'espérance. Exode 20, verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Alors là, c'est exclusivité, fidélité, c'est pas des cachets, c'est en injection. On doit avoir quasiment le goutte à goutte avec nous, là. Hein, parce qu'on est soumis à beaucoup de pression d'idolâtrie dans le monde. Troisième, pureté, sanctification. Paul dit à Timothée, sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Ne pensez-vous pas que Marie ait vécu cela ? Un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté ? Oui ou non ? En bon catholique, suivez l'exemple. Et moi je dirais, en bon chrétien, suivons l'exemple. Pureté, sanctification. C'est quoi la sanctification ? Recherchez la sanctification, nous dit Hébreux, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ne te mets jamais en situation, d'accord, d'être déchu de ta sainteté. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui te sanctifie. Jour après jour, tu as été justifié à la croix et ton baptême, c'est le départ d'une marche dans la sainteté, de gloire en gloire, de sanctification en sanctification. C'est donc un combat, mais un juste combat, un combat avec son aide. Ne jamais déchoir. Si tu te sens déchu de ta sanctification, tu confesses. Il y a des prêtres là-bas. Vous savez, chez les protestants, il y a la confession aussi. Quand il y a un pasteur, c'est le pasteur qu'on va voir. Et quand il n'y a pas de pasteur, ben c'est dans des groupes de maison, c'est entre frères et sœurs. Et en général, ça se fait avec des frères et des sœurs qui ont quand même une forme d'autorité dans l'Église, vous voyez, et qui ont un discernement. C'est ce que vous appelez le sacrement des frères. Ben nous, on le vit depuis toujours, quoi. Moi, j'ai été sauvé par le Seigneur et pendant un an, je me suis confessé parce que tous les jours au pasteur qui m'a ramené au Seigneur parce que j'avais besoin de me confesser. Et à chaque fois, il déclarait le pardon de Dieu. Vous savez, on est bien plus proche qu'on ne le pense. Hein. Amen. Gloire à Dieu. On continue? Donc, recherchons la sanctification. Encourageons-nous à cela. John Wesley, celui qui a sauvé l'Église d'Angleterre par le réveil méthodiste juste après la Réforme, ce réveil a continué parce qu'il formait des groupes, comme des groupes de prière déjà à l'époque, où les gens confessaient leurs péchés les uns aux autres. C'était des groupes de redevabilité. Amen. On en a besoin, frères et sœurs. Dernière chose, quand une femme est enceinte, elle veille sur son alimentation. Elle ne mange pas n'importe quoi. Vous êtes d'accord? Elle ne boit pas n'importe quoi. Frères et sœurs, quelle est la nourriture qui nourrit notre foi? Le corps et le sang du Christ. Nourris-toi de la communion. Nourris ton embryon de la communion au corps et au sang du Christ. Moi, j'envie les prêtres et j'envie les moines qui communient tous les jours. Et pour moi, ce n'est pas un rituel, c'est spirituel. Je suis à la retraite depuis 3 ans et j'essaye d'aller assez régulièrement à la messe chez mes frères dominicains à Lille. J'aime bien leur messe le midi parce qu'elle dure une demi-heure. Pas parce qu'elle est... Non, c'est parce que ça permet quand même d'avoir un temps, vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve ça tout à fait juste. Comme ils me connaissent, ils m'accordent l'hospitalité, c'est très local, vous voyez, j'en fais pas étalage, hein, c'est pas... Parce qu'ils me connaissent, et puis ma belle famille est catholique, donc on est une famille mixte, ça a aussi du sens qu'on puisse communier, il y a des réalités. Je ne donne pas là un exemple à faire pour tout le monde, c'est la réalité de ce que je vis, et je sais que le Seigneur me dit, Étienne, c'est vraiment une nourriture, et c'est vraiment un breuvage. Amen. Les Lévites ne mangeaient que les viandes sacrifiées. Donc en tant que lévite, je mange le corps et le sang du Christ. Et c'est ça qui nourrit ma foi, mon espérance, ma charité et l'embryon que Dieu a déposé en moi. Amen. Et dernière chose, je me nourris aussi du lait spirituel de la parole de Dieu. Ne négligez pas chaque jour la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Alors frères et sœurs, on pourra dire ensemble avec Israël, dont c'est aussi l'espérance. Je peux prendre une minute de plus, cher frère, une minute de plus, très rapide. J'étais à Jérusalem avec ma femme. On est allé écouter un rabbin qui donnait des enseignements sur Internet qu'on pouvait suivre, qu'on suivait depuis plusieurs années. Un rabbin orthodoxe, vous savez, ces rabbins dont je vous ai lu les textes hier, d'accord? Ce rabbin disait, le Messie est à la porte, il est très proche, les temps sont là, on le voit bien d'après les Écritures. En lisant l'Apocalypse de Daniel, ils arrivent aux mêmes conclusions que nous. Hein. Parce que l'Apocalypse de Jean reprend l'Apocalypse de Daniel en révélant Jésus-Christ. Eh bien, il dit, le Messie est à la porte, c'est le temps de partager la Torah à tout le monde pour que tout Israël fasse Teshuvah et que le monde soit prêt. C'est magnifique. Du coup, chaque jour, il commente la paracha, le texte du jour, pour nos frères juifs. Et nous, on s'est mis à l'écouter et on a été profondément enrichis de leur connaissance et de ce qu'ils nous donnaient. Et on a appris, on est allé à Jérusalem voir des amis, et on a appris qu'il donnait des cours en dehors de sa yeshiva dans un appartement. Comme il est francophone, il donne des cours donc à un médecin français qui a fait son alia. Et puis on a téléphoné, parce qu'on a eu le numéro de téléphone, et le médecin nous a dit « Bien sûr, vous pouvez venir, si vous êtes chrétien, il n'y a pas de souci, le rabbin va vous accueillir, vous pouvez venir. » On y est allé. Et on y est allé,
et ce jour-là, on n'avait pas fait attention, c'était le jour de Yom HaShoah. Le jour de Yom HaShoah, c'est le jour où en Israël, on fait mémoire des 6 millions de morts et plus. Et alors, toutes les sirènes de tout le pays sonnent, et tout le pays s'arrête instantanément. Tous les bus s'arrêtent, tous les taxis s'arrêtent, toutes les voitures s'arrêtent, et tout le monde descend. Et tant que siffle la sirène, plus rien ne bouge. Puis après, ça repart. Et il nous a dit, vous venez m'écouter le jour de Yom HaShoah, vous des chrétiens, je suis vraiment honoré, donc on va discuter peut-être autrement que de la paracha. Je vais vous poser une question. Pourquoi Dieu a-t-il permis la Shoah en Europe ? Je n'ai rien pu dire. Un de nos amis a essayé de dire quelque chose qui était plein de compassion, vous voyez. Il a dit, ah vous êtes sans doute un pasteur évangélique, hein, vous connaissez bien votre Bible. Donc ce rabbin connaissait, il connaît les évangiles, il avait déjà étudié, vous voyez. Puis il nous laisse parler, puis il nous dit, bah, écoutez, moi je vais vous dire, et c'est un rabbin qui vous le dit, c'était les douleurs terribles de l'accouchement pour que nous puissions revenir sur notre terre parce que le Messie vient bientôt à Sion. Il faut entendre ce que les juifs disent d'eux-mêmes, frères et sœurs, et pas ce que les médias disent des juifs. Amen. Et puis à la fin, il nous a dit, écoutez, vous m'avez honoré en venant me voir. Je vois que vous êtes des chrétiens qui connaissaient la parole de Dieu et qui priaient pour Israël, parce que vous avez compris que nous sommes aussi le peuple de Dieu. Eh bien, vous croyez que le Messie vient ? Je le crois aussi. S'il vient aujourd'hui et que ce n'est pas Jésus, ce n'est pas grave, parce qu'il vient pour le salut du monde, pour le mien et pour le vôtre. S'il vient aujourd'hui et que ce n'est pas Jésus, ce n'est pas grave, parce qu'il vient pour le salut du monde, pour le mien et pour le vôtre. S'il vient et que c'est Jésus, j'ai la parade. Tu es juif, mon frère. Frères et sœurs, l'espérance est en marche. Alléluia.